Salut, bonsoir, bienvenue dans TV Vénère, c'est la rentrée sur Radio Kawa, ça y est, on se retrouve, on retrouve nos sièges et nos micros et vous pouvez déjà l'entendre, il y a eu du changement. Oui, depuis 2013, la télévision a évolué, du coup, TV Vénère aussi. Beaucoup ne regardent plus exclusivement la TNT, on est par exemple parti sur Netflix pour y retrouver Marseille, une fiction française si atterrante que... Bon, d'accord, ce genre-là, on l'avait déjà sur le PAF. En vérité, plus que par la simple émergence des productions 100% Internet, c'est une véritable convergence entre la radio, la télévision et Internet qui s'opère lentement. Pour ne pas se laisser faire et aussi parce que j'adore parler de la radio, il faut l'admettre, votre podcast d'actualité télé préféré est devenu votre podcast média audiovisuel préféré. Il garde son nom, TVNR, car aucun autre titre ne saurait aussi bien traduire l'état d'esprit qui est celui de l'équipe que j'ai désormais la joie de conduire. Toutes les deux semaines, nous allons observer et commenter de manière directe et parfois goguenarde les émissions, les grilles, les chaînes, les top managers et les têtes connues qui font et défont l'actualité de nos médias. Enfin, au fil des épisodes, en plus de vos chroniqueurs habituels, quelques voix nouvelles se feront entendre. J'espère que vous leur réserverez un bon accueil. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Top générique.
Radio Kawa présente TVNR.
L'actu média, toutes les deux semaines.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans TVNR, épisode 60, premier épisode de cette quatrième saison. Avec moi ce soir, pour parler de l'actualité des médias audiovisuels, nous avons Chloé Vautier du Figaro.
Salut tout le monde.
Nous avons Greg qui est belge, qui aime bien parler de sport. De quelle publication es-tu déjà, Greg?
Eh bien de Sud Presse et du Soir en Belgique sur le papier.
Très bien, très bien. Bienvenue parmi nous de nouveau. Un petit nouveau lui, c'est Olivier, il travaille pour une chaîne info. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Voilà, avec ton avis de professionnel de la profession, tu sauras nous éclairer aussi bien sur le grand dossier de ce soir que sur d'autres thématiques au cours de cette merveilleuse saison. Bienvenue parmi nous.
Merci.
Et puis, il est de retour un petit peu de partout, c'est Stan. Stan qui bosse pour Captain Train. Stan qui est un vétéran du podcast. Rappelons qu'il a cofondé Synops Live il y a de cela de nombreuses années, quasiment 10 ans maintenant.
Oh là oui.
Bonsoir environ, Stan. Ouais.
Salut, salut, salut Yann, salut à tous.
Eh bien, ça va bien?
Oh oui, ça va très bien, tranquillement installé pour une émission qui a l'air bien rigolote.
Eh bien écoute, oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle formule de TVNR pour prendre 3 secondes pour en parler? Bah c'est un grand dossier, ce soir on va vous parler des rentrées des chaînes info. Et évidemment on va parler de France Info, la nouvelle chaîne qui s'est lancée, iTélé qui s'apprête à devenir demain CNews, BFM TV, LCI qui fait face au petit défi que lui propose le CSA de faire un peu moins d'infos en continu et de breaking news et de faire de l'information de manière plus générale avec des magazines. Et puis voilà, on parlera d'un petit peu tout, on parlera aussi peut-être du challenge face à l'ogre télématin que ces chaînes info veulent imposer en changeant un petit peu la façon dont on fait la télévision le matin et en posant de jolis petits canapés. Et puis évidemment, il y aura des recommandations, qu'elles soient télé, radio ou internet, des belles recommandations médias, de choses à regarder et à voir et à écouter, ce sera à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, on commence par l'actualité, et l'actualité cet été, ça a notamment été, on peut absolument pas l'éviter si on parle de médias, la fameuse affaire Morandini. Chloé, quel est le point sur la situation?
Alors, donc le Morandini Gate, comme on l'appelle entre nous, très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mi-juillet, les Inrock ont sorti une enquête absolument dévastatrice pour Jean-Marc Morandini, qui expliquait comment il avait fait passer des castings auprès de jeunes et faibles pour une web-série qui était censée être sur des garçons dans un club de foot amateur, et comment ces acteurs se sont retrouvés à devoir faire des se toucher, faire des masturbations, etc. devant la caméra. Donc ça s'est plutôt mal passé pour Jean-Marc Morandini. La question c'était comment allaient réagir ses employeurs du côté des médias. Est-ce qu'ils allaient continuer à lui faire confiance? Est-ce qu'au contraire, ils allaient le retirer de l'antenne parce que voilà, ça sentait un peu le roussi pour lui? Et ben, les résultats ont été assez différents. Parce que du côté de aussi bien de Europe 1, où Jean-Marc Morandini avait quand même pas loin de 3 heures d'antenne tous les jours le matin, entre le grand direct des médias, le grand direct de l'actu, le grand direct de la santé. Et de l'autre côté, il devait arriver sur iTélé. pour animer le 18-19h, si je ne me trompe pas,
oui.
Au grand cri d'effroi de la rédaction qui ne voulait surtout pas de Morandini chez eux. Eh ben, les deux rédactions ont eu la même décision, qui est bon. Alors, présomption d'innocence, parce qu'il y a des affaires, évidemment. C'est en justice. C'est parti en justice, ces affaires-là. C'est voilà. Bon, on le présume pas coupable, mais on va quand même le retirer de l'antenne. Donc, il est toujours salarié de Europe 1 et de ITL. Mais ces émissions ne sont pas programmées. Donc là, voilà, pour ITL, il devait arriver à la rentrée, bah finalement non. Sur Europe 1, il a été, on l'a retiré de l'antenne. Donc le grand guide de l'immédiat est repassé chez son joker, Thomas Joubert. Mm-hmm. Et la tranche suivante, j'ai un trou, je ne sais plus.
Ah, il y a un peu d'onlate.
Il y a du onlate.
Il y a un peu tout. J'en reparlerai d'ailleurs quand on
est un peu médecin d'ailleurs aussi.
Ouais. Donc voilà, on a à la place, on repart à saucissonner ces 3 heures d'antenne pour faire plusieurs petites émissions qui vont d'une demi-heure à 1 heure pour remplacer Jean-Marc qui faisait 3 heures d'antenne jusqu'à présent. Mmh. Et avec toujours la promesse du si il est innocenté, on le remet à l'antenne. Donc voilà, alors la question c'est combien de temps ça va prendre, parce que le temps de la justice est quand même, c'est pas le temps médiatique, donc ça peut prendre quand même pas mal de mois si ce n'est plus. Et du côté d'ITL, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il avait été sorti, je crois, par OZAP, que Jean-Marc Morandini avait été, voilà, il a été jeté d'ITL, et on a tous reçu un communiqué de Canal+ un peu plus tard dans la matinée en mode absolument pas, Jean-Marc Morandini reste un salarié.
C'est toujours mon BFF. C'est,
voilà, on l'aime toujours, et dès qu'il serait innocenté, il revient à l'antenne. Par contre, ceux qui le défendent toujours, c'est Énergie 12.
Comme la corde qui tient le pendu, quand même.
Voilà, Énergie 12 soutient Jean-Marc Morandini corps et âme. Et donc, il conserve son émission qui s'appelle Crime, si je me souviens bien. Donc, voilà. Donc, là, vous pouvez même voir en ce moment, ça y est, depuis la fin août, des inédits de Crime. Par contre, ils ont arrêté Crime en direct, parce qu'il y avait aussi la version en direct, on sait pas trop pourquoi, mais en direct, parce que c'est genre, on sait jamais, il pourrait y avoir un dérapage, on veut protéger Jean-Marc.
C'est sûr que sa coupe de fraise n'a rassuré personne. Hein.
C'est presque pire.
Voilà. Donc, mais sinon, Jean-Marc Morandini continue toujours d'opérer sur son blog qu'on connaît tous, jeanmarcmorandini.com. Mm-hmm. Et puis, voilà, nous verrons comment tout ça va évoluer, mais bon, le connaissant, c'est un peu le phénix des médias, et il tombe et il revient un beau jour, tu ne sais pas trop, il rejaillit. Donc, je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de Jean-Marc.
Rapidement, Stan, on avait vu un périscope d'une conférence de presse et ça avait marqué les esprits.
C'était extraordinaire. On avait quand même eu l'occasion de voir Jean-Marc Morandini juste exploser, entre guillemets, de presque, je dirais, de rage en montrant que y aurait un complot avec je sais pas quel acteur gay chelou, avec Marc-Olivier Fogiel, avec Les Jours, genre random Les Jours. Enfin, c'était assez épique.
Parce qu'il a un petit problème avec les Garrigos de longue date. Hein.
Voilà, évidemment. Mais bon, du coup, c'est très rigolo de voir, c'était très rigolo plus ou moins, mais c'était quand même assez épique de voir ça se faire en direct sur, donc, du coup, sur Periscope, vu que c'était les journalistes sur place qui avaient eu cette bonne idée de la diffuser en direct. Oui, le saut de popcorn était immense, et aussi c'était complètement affligeant, mais bon, ça c'est, oui. Les deux vont ensemble.
Donc, Morandini parlait d'un complot fogiello-maçonnique en quelque sorte.
Voilà, évidemment. C'est ça. Jusqu'au bout.
Très bien. Eh bien, écoutez, d'ITL bientôt CNews à Canal+, il n'y a plus qu'un pas qu'on va franchir avec Greg. Greg, oui. Qu'est-ce qui se passe avec la grille de Canal+?
Eh bien, on se le demande. Parce que Canal+, fait donc sa rentrée ce lundi, tout comme ses 3 chaînes satellites, C8 qui était D8, C-Star qui était D17, et donc CNews qui était ITL. Mais évidemment, le plus important, c'est Canal+. On le sait, il y a eu un grand ménage juste avant l'été, plus ou moins fin du mois de juin, et on ne savait pas trop ce qui allait se passer à la rentrée. Il y a déjà une conférence de presse début juillet qui expliquait que il y aurait beaucoup moins de clairs, qu'il y aurait donc beaucoup plus d'émissions premium pour les abonnés, ce qui était un peu étrange comme stratégie. Et cela s'est confirmé donc lors de la conférence de rentrée qui s'est déroulée cette semaine, justement, ou il y a 2 semaines. Voilà. Et donc ça s'est confirmé. Il y a quasiment 2 heures seulement de clair par jour contre 5 à 6 la saison dernière. On se retrouve avec une moitié de grand journal en clair, ce qui est un peu bizarre. Donc on aura la première partie avec Victor Robert en crypté, la deuxième en clair, le petit journal est en clair, le gros journal au clair avec Mouloud Achour, parce que pourquoi pas, on a toujours Mouloud Achour dans un cartable, il faut bien le caser quelque part. Par contre, les Guignols avec, attention à la présentation, Nikos Aliagas. Ça, c'est le rêve absolu. Qui reste encrypté et sur Dailymotion, parce que oui, vous pouvez regarder les Guignols sur Dailymotion en clair.
Vous pouvez faire partie des 500 personnes qui le font.
Ouais, c'est voilà. Donc, c'est une grille un peu étrange où on se retrouve avec Canal Plus en clair de 19h30 à 21h. Où on ne sait pas vraiment qui va regarder cela, parce que le contenu est vraiment très minime. Même le Petit Journal, donc qui a été repris par Cyril Aldin. je sens la consternation. Donc le Petit Journal par Cyril Aldin ne durera plus que 20 minutes. Mm-hmm. Il a tenté de montrer qu'il avait toujours cet esprit de Canal, cet esprit débridé et un peu poil à gratter, comme on dit, avec des vidéos teasing sur un bateau qui ont visiblement fait peur aux spectateurs, vu que sur la page Facebook, il y a eu plus de 100 000 fans en moins dès que Cyril Aldin a été présenté comme le nouvel animateur, et avec la photo de profil de Cyril Aldin sur la page du Petit Journal, les gens ont enfin compris, ah mais mon Dieu, c'est plus l'autre avant qui a été plus ou moins pro.
C'est plus celui qu'une barbiche. Oh. Dis donc.
Et voilà. Donc, on sent vraiment que Canal Plus ne sait pas trop sur quel pied danser. Le clip de rentrée était aussi assez... limité, c'est-à-dire oui. que c'était 2 minutes avec un générique de Côte Ouest avec les animateurs. On était bien loin des précédentes productions qui duraient parfois 10 minutes, un quart d'heure, qui étaient bien plus humoristiques. Mais là, évidemment, quand il y a tout le monde qui a quitté le navire, bah, c'est difficile de faire ça avec les trois marins qui restent. Donc voilà. La rentrée ne sera pas très bon, il y a seulement C8 qui peut sortir du lot vu qu'elle récupère la nouvelle édition, que TPMP va continuer à cartonner, et qu'il y aura la nouvelle émission de Camille Combal qui va récupérer les adolescents qui adorent déjà TPMP auparavant.
Oh là là, Chloé.
Non, moi un truc que je trouve dingue avec la nouvelle grille de Canal, c'est on a des émissions, on va couper en deux. Voilà, alors un côté ce sera encrypté et puis l'autre côté ce sera en gratuit.
La justification des exécutifs de Canal, c'est de dire, mais c'est pour faire du teasing, car on fait du crypté, donc c'est du teasing.
Oui alors c'est du teasing à l'envers, hein, parce que dans ce cas-là, tu commences par le gratuit, et après tu coupes. Mais mais c'est très bizarre, ils font même ça pour le tube. Et c'est genre, mais pourquoi
Le tube qui reste sur Canal, du coup.
C'est qui présente ça, d'ailleurs?
Oui, qui présente
Madame Tourburu.
Oui.
Voilà, d'accord.
Qui faisait le Canal rugby.
Le sport.
Journaliste sportive.
Toujours journaliste
sportive, je pense. Sportive, ouais, elle continue.
Je crois toujours, ouais.
Sur Twitter, rapidement, au hashtag TVNR, nous avons notamment Ringo Juice qui dit « Je vous signale, les amis, que ouvrir avec Morandini éditorialement, c'est un peu faire du Morandini, c'est vrai. »
C'est pas faux.
Ne zappez pas.
C'était le feuilleton de l'été.
Ouais, et puis, quand même... j'aime également Stan qui, sur son propre compte Twitter, fait un jeu de mots avec son nom de famille, dit Stanislas C News, et j'apprécie.
Oui, voilà, bon, on fait ce qu'on peut, voilà. C'est juste que ça me...
Là, je trouve que c'est bien joué.
N'est-ce pas? Non, mais ce qui est terrible avec Canal quand même, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont quasiment vraiment, ils ont vraiment plus personne, quoi. Enfin, quand on regarde le petit clip dont tu parlais tout à l'heure, Greg, tu te sens vraiment compte qu'ils ont juste Alex Lutz et Bruno Sanchez et c'est quasiment tout, quoi. Mm-hmm. Quand tu regardes l'intérieur et comment c'est fait à l'intérieur, tu te dis, je sais même pas qu'est-ce que je vais regarder le soir. Quand ils en sont à un stade où ils ont quand même pris le Petit Journal pour le remettre sous forme d'une, parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'ils le refaitent sous forme d'une chronique au sein du Grand Journal. Présenté par Victor Robert, juste tout dans cette phrase donne envie de mourir. Enfin, il y a aucune raison d'écouter, enfin de regarder Canal Plus en début d'année, en début de cette saison.
Effectivement, ça va être assez bizarre. Et sur le clip de rentrée, je peux dire que quand on voit Victor Robert en perruque, on le reconnaît pas, et c'est un grave problème.
C'est vrai.
Parce que du coup, quand tu mets quelqu'un en tête de proue et que t'arrives pas à le reconnaître, il y a comme un petit souci.
Oui, oui.
Enfin, bref.
J'ai eu du mal vraiment à reconnaître les gens.
Oui, c'est une caractéristique de ce fameux clip de rentrée. Très bien. Bah écoutez, première grande news radio est vraiment grande, hein, pour le coup, parce que ce que je vous propose, c'est de faire une petite plongée au cœur de la rentrée radio. Quels sont les programmes, quelles sont les nouvelles signatures sur la bande FM? Eh ben, écoutez, on va commencer avec le groupe Radio France et France Inter, qui a fait une pré-rentrée de matinale le 22 août, une semaine avant tout le monde, et une semaine avant même les nouveaux programmes de France Inter. Donc la matinale, la tranche de matinale était là, y compris les chroniqueurs humoristique. Nicolas Demorand sur France Inter, eh ben, en plus d'un jour dans le monde et du téléphone sonne, il récupère la case fleuve de la politique le dimanche, qui était anciennement Agora de Paoli.
Avec bien le Morandini de France Inter.
Un programme, oui, c'est quasiment ça, avec un programme qui s'appelle Questions politiques et qui est également diffusé sur la nouvelle chaîne télé France Info. On y reviendra un peu plus tard. Et vous savez où il est, Ali Badou? Eh ben, il est sur Inter, annoncé un peu.
Je croyais qu'il passait le permis.
Ah, non, 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 annoncé un peu en catastrophe après la conférence de rentrée de Radio France. Il officiera le vendredi dans la matinale à l'interview de 7h50 à la place de Léa Salamé qui garde ce spot, mais du lundi au jeudi. Grande est la maison ronde qui lui a tenu la porte jusqu'au dernier moment et même un peu après. Sur France Culture, la matinale du samedi, je suis sûr qu'elle vous excite, la matinale du samedi, elle est désormais présentée par Caroline Brouet, elle est lancée cette nouvelle matinale du samedi, car, je cite, « l'info ne s'arrête pas le vendredi, le monde continue de tourner le samedi ». Vivement la matinale du dimanche.
La le public grande... le découvre aujourd'hui.
Oui, voilà. La grande table, mélange de discussions avec artistes et chercheurs qu'Olivia Jesbert récupère des mains de Caroline Brouet. Voilà, c'est une autre permutation importante chez France Culture, parce que le programme prend quand même pas mal de place dans leur grille autour de midi, il faut bien le dire. Sur France Info, entendez France Info deux points tout en minuscules. La matinale de Fabienne Synthèse commence désormais à 7h du matin. On y retrouve d'ailleurs 8h30 à Paty. Et Fabienne Synthèse doit changer de studio pour ça, elle doit descendre de deux étages pour pouvoir aller au studio de télé. Carl Zéro arrive sur l'antenne de France Info avec une chronique dans la matinale qui s'appelle Si j'étais. Le briscard de Canal Plus se prend pour une personnalité connue dans l'actualité. Sa première, c'était aux surprises à propos de Donald Trump. Les informés de France Info de Jean-Mathieu Pernin passent en télé, et c'est le cas également pour Classico, en tout cas la première demi-heure, de Mathieu Maestrachi.
Matteo.
Ah, ça se prononce comme ça, excusez-moi.
Il est corse, attention.
Tu vois, on revient sur Morandini avec les Corses. Bref, France Bleu, toujours pas de directeur, et Monsieur Schlesinger, qui est donc le directeur des antennes des programmes de Radio France, promet une arrivée en octobre d'un nouveau ou d'une nouvelle patronne. Donc voilà, faut prendre son mal en patience pour aller chez France Bleu. Enfin, d'après Anne Ehrenstein, journaliste chez France Bleu et porte-parole par défaut de ce réseau de 44 radios locales, les trois piliers seront l'info, la vie locale et la solidarité. Ça sonne aussi mielleux qu'un programme Feel Good de TF1 présenté par Pernaud. Sur France Musique maintenant, du jazz en plus avec Open Jazz et Banzai, qui sont des quotidiennes mais aussi en collaboration avec Lina, dans une émission qui va s'appeler Les Légendes du Jazz, qui sera une hebdomadaire. On va se demander un peu ce que Philippe va faire si tout le jazz part sur France Musique. Enfin, en termes de matinale, c'est Saskia Deville, qui est la nouvelle présentatrice, elle est musicologue, chanteuse lyrique, elle vient de Belgique, elle a 32 ans, donc voilà quelqu'un de relativement jeune dans une matinale de Radio France, c'est assez chouette comme concept, c'est bien, c'est rafraîchissant, c'est sur France Musique, voilà, si vous voulez découvrir, vous le pouvez, notamment en podcast. Sur FIP, pas grand chose à dire, si ce n'est que Sous les jupes de FIP est désormais présenté par Frédéric Labussière et que C'est magnifique est maintenant animé par Émilie Blond-Metzinger. Enfin, pour terminer Radio France, évidemment vous l'attendez, le quart d'heure move avec le maintien du cap, entre guillemets, urbain, mis en place par son président Bruno Laforesti, valoriser la culture jeune, tout le monde en parle, mais Move le fait. Stan, tu voulais dire?
Non, ce qui est amusant, c'est que Move existe toujours, en fait.
Oui,
c'était vraiment le quart d'heure gênant durant cette conférence de presse de Radio France, quoi. C'est le moment où ils te disent, vous avez vu, on essaie d'être jeunes, et ça marche tellement pas, juste, c'est un flop tout du long. Ils disent, oh, on va peut-être arriver au point d'audience.
Après,
c'est pas très bien.
Je savais pas que la culture des jeunes pouvait être aussi unidimensionnelle et largement bas du front, mais soit, ils font ce qu'ils veulent. Et puis quand même, nouveauté chez Move, on essaie de faire jeune et on essaie de faire connecter avec Snap & Mix. Les auditeurs font de la radio avec nous, déclare donc Move, avec une participation via Snapchat des auditeurs à une grande playlist. Donc voilà, c'est une tentative.
Oh mon Dieu.
Oui,
c'est terrible.
C'est la bonne réaction, je suis d'accord avec vous.
Facepalm mais total.
Du côté d'Europe 1, c'est un petit peu la chirurgie plastique de la semaine, puisque le grand direct des médias, disait Chloé, effectivement de 9h à 10h30, est désormais attribué à Thomas Joubert, qui était déjà le joker d'été et qui a pas dû prendre de grandes vacances du coup. Le pauvre. Ensuite, On la raconte de 10h30 à 11h30, qui est un mélange entre Faites entrer l'accusé. D'ailleurs, en parenthèse, il va même mettre sur ses pages d'épisode sur le site d'Europe 1 des liens vers la version YouTube d'anciens épisodes de Faites entrer l'accusé. Et en même temps, une narration un tout petit peu à la affaire sensible, mais avec plus de musique au milieu. Donc soit, si ça vous intéresse, ça peut. Je veux dire, on a tous un petit fétiche pour On la chez TVNR.
Je t'interromps juste.
Oui.
Est-ce que ça ressemble un peu à ce que pouvait faire Pierre Belmar sais, genre les grandes histoires criminelles racontées par Pierre Bellemare.
Il y a assez de ça, honnêtement. Je tout à fait. Après, c'est avec le ton extrêmement stressé de Christophe Ondelat, contrairement à Bellemare, qui est beaucoup plus reposant, beaucoup plus.
Oui, qui te raconte des horreurs, mais.
Sieste sur le canapé à 15h sur la chaîne Histoire, mais voilà, c'est carrément. C'est prenant, disons.
Là, il y a un avantage, parce que c'est européen, donc on le voit pas. Donc c'est moins stressant quand même.
Ça aide. Et puis enfin, il n'y a plus le grand direct de la santé, mais il y a Question de santé dès 11h30 à midi, donc une case d'une demi-heure, avec le docteur Gérald Krizerk et Julie d'Europe 1 qui est là, qui est crédité avec Julie. Avec tout Julie. À fait. Sur Europe 1 toujours, ça pique mais c'est bon, de midi à midi 30, c'est Anne Roumanoff et notamment avec une équipe de chroniqueurs, le pauvre Didier Porte, viré de RTL, qui s'est trouvé là-bas.
Oh, c'est dur.
On lui souhaite bon courage pour cette saison, il va falloir supporter tout ça pendant un an. De quoi j'ai l'air de 15h à 16h avec Nikos Aliagas, qui était déjà sur l'antenne mais qui était à des heures différentes, et puis de 16h à 17h, la cour des grands avec Alessandra Sublet. On passe à RTL et on revient à ce que disait Chloé, de nouveau, hein, on peut pas s'empêcher, Olivier Mazerolle récupère le grand jury RTL, Le Figaro LCI, donc il est également diffusé sur LCI, le bonhomme, ainsi que sur RTL, donc voilà, Olivier Mazerolle qui passe de la matinale à cela le dimanche, RTL Matin s'adjoint les services de Michel Simès pour une chronique santé, et puis Bernard Poirette récupère le journal inattendu de Marie Drucker de 12h30 à 13h30. Enfin, sur RMC, et je sais que vous attendiez RMC, 100% Bachelot, les amis, de 15h à 16h, chaque jour, vous avez votre dose quotidienne de Roselyne Bachelot pendant une heure, c'est fantastique. D'ailleurs, elle trustait également France Info avec un sujet d'interview là récemment quand la chaîne s'est lancée. Et puis enfin, Christophe Dugarry, ex-Canal+, s'occupe désormais de chapeauter les soirées football chez RMC. Voilà un peu à quoi ressemble le paysage des radios pour la rentrée. Sacré programme, il faut bien l'admettre. On va enfin faire un dernier point de retour d'actu de ce qui s'était passé pendant l'été avec Olivier et la rue des Allocs. Qu'est-ce qui s'était passé avec la rue des Allocs ?
Alors d'abord, la rue des Allocs, c'est une série documentaire, un docu-réalité. Le concept, c'est des caméras qui suivent plusieurs personnes en grande précarité dans un quartier défavorisé d'Amiens qui s'appelle Saint-Leu. Alors ça, c'est le pitch de départ. Déjà, le titre donne un peu une idée du programme. En fait, c'est surtout l'adaptation d'un format anglais qui s'appelait Benefit Street,
exactement,
qui a été diffusé en janvier 2014 sur Channel 4. Alors, c'était décrire le quotidien de personnes qui touchent les minima sociaux et qui survivent grâce à des petites combines. Bien sûr, on voyait que dedans, c'était des fraudeurs, des voleurs, des alcooliques, enfin des trucs la classe, quoi. À l'époque, il y avait déjà eu un gros scandale. Beaucoup de téléspectateurs s'étaient plaints, certains élus aussi. Ça avait même déclenché une enquête de l'Ofcom, qui est l'équivalent britannique du CSA. Enquête qui avait conclu quelques mois plus tard qu'en fait, c'était pas terrible, mais c'était pas grave, comme souvent. Donc, M6 a annoncé la mise en chantier de cette émission. Donc, ça a déjà attisé la curiosité et annonce quasi par surprise la diffusion des deux premiers épisodes au cours de l'été, le 17, je crois. Alors, on sent déjà qu'ils sont un peu emmerdés avec le concept et que ça peut déclencher des polémiques. Donc, peut-être au cœur de l'été, il y avait moyen de faire quelque chose. Et ça n'a pas manqué, en tout cas, du côté des polémiques. Il y a eu un communiqué de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, la FNARS, qui a saisi le CSA pour demander carrément qu'on suspende la diffusion, ce qui n'a pas été fait au final.
Ce qui est impossible,
peut...
en parenthèse,
oui,
de manière...
Oui, le CSA ne peut pas intervenir en amont là-dessus. Il disait que c'était un programme qui stigmatisant et honteux face à la détresse sociale que vivent près de 8 millions de personnes pauvres en France.
Bah, pour être honnête, rien que le titre, c'est un putain de parti.
Après, le titre, c'est la traduction quasi littérale du titre anglais qui était peut-être déjà pas classe au départ.
Ça n'empêche pas.
Ah non.
Ouais. Alors, la polémique a été gonflée aussi par des papiers dans la presse locale qui accusent la production d'avoir un peu forcé le trait, en particulier sur la place de l'alcool dans la vie des personnages. Le Courrier Picard a même fait un papier qui cite des habitants, alors bon, c'est toujours des oui-dire, qui disent que la production leur aurait payé des bières, tout simplement, pour faire simple. Alors ça, bon, ça demande à être vraiment prouvé. Le réalisateur ne dément pas spécialement, mais dit que en fait, dans l'ambiance conviviale qu'il y avait avec certaines personnes, parfois, il leur arrivait de partager un verre. Voilà.
Ok. Okay. C'est
alors, moi, j'ai pas vu Benefit Street, j'ai regardé la rue des Allocs, hein, j'ai fait mon travail. Alors, c'est pas tout à fait du même niveau que Benefit Street, c'est pas l'horreur annoncée, c'est juste un docu-réalité racoleur et un peu nul. L'aspect positif, on va dire qu'on voit une réalité qu'on voit quasi jamais à la télé en prime time. Il y a quelques séquences marrantes et des personnages un peu émouvants ou méritants, comme une certaine Marie Jo, qui est un peu une mère patronne du quartier, enfin qui essaye de se débrouiller. Côté négatif, on constate que la plupart des personnages sont assez peu charismatiques, faut le dire, et ont parfois des difficultés d'élocution, l'alcool n'aidant pas. C'est assez dur à suivre parfois, enfin le son est pas terrible. Alors, en plus, dans l'idée de montrer la réalité sans filtre, on a deux, trois petits passages avec des remarques racistes. Genre, à un moment, il y a une négociation pour un camion et le mec dit, il négocie avec une personne qui est black. Et il dit, oui, enfin, tu me payes pas en banane, tu vois, un truc comme ça, classe.
Ouais, d'accord. Ouais.
Ou, il y a un moment, un mec qui parle d'une anecdote où il y a des gars qui l'ont tapé et l'ont jeté pour le punir dans le bois des PD. Donc voilà.
Bon, ah, ça. Bah oui, bien sûr.
Bon, après, ce sont des milieux populaires et ce sont des choses qui se disent, voilà.
Ah, bien sûr.
Alors, on a aussi, le souci, c'est qu'il y a quand même quelques gros tics. Ils veulent nous la jouer docu, ils ont embauché un réalisateur qui a un peu de la crédibilité là-dessus, mais il y a quand même des tics de télé-réalité. Je pense qu'il y a eu un gros problème sur le montage avec M6 qui a dû tirer du côté télé-réalité et le réal qui a dû vouloir préserver sa dignité. Donc il y a certaines séquences qui sont gonflées alors qu'elles sont pas vraiment intéressantes, en particulier à la fin du premier épisode où il y a une dispute à table sur un truc qu'on comprend pas bien et il coupe au moment où le mec va lui coller une torgnole à l'autre. Voilà, bon. Et au final, on revient pas dedans à l'épisode 2. Donc c'est du teasing pour rien. Bref, c'était pas terrible. Ça a fait la troisième audience de la soirée derrière TF1 et France 3. TF1, je crois que c'était Blacklist, et France 3, c'était Des Racines et des Ailes.
Il y avait quand même un effet de curiosité du coup.
Il y avait quand même un peu de monde, mais c'est décevant. En tout cas, la vie d'M6, à mon avis, c'est décevant, puisque les deux épisodes qui restent à passer, pour l'instant, ils sont pas programmés. On n'a pas de nouvelles.
Bon. Ça fait un petit peu The Apprentice, hein. D'ailleurs, c'était également sur M6, le côté un petit peu, on produit quelque chose qui est censé être un peu trashouille. En fait, on se plante un peu, et puis ça passe pas très bien, et puis on sait pas quand les diffuser.
C'est le problème d'M6. Ils sont une chaîne familiale, donc faut pas choquer. Mais en même temps, il faut des concepts un peu racoleurs, parce qu'ils ont pas les moyens de faire des beaux divertissements bien chers, très grand public. Et quand ils essayent, ils se plantent, hein, CF Rising Star. Donc là, ils voulaient un truc un peu racoleur, mais en même temps, faut pas trop choquer. Donc ils assument pas complètement le truc. S'ils avaient fait un truc à la Channel 4, ça a été un énorme scandale, mais ça a aussi été aussi d'énormes audiences. Ils en ont fait une deuxième saison. Ils ont même fait une autre télé-réalité qui s'appelait Immigration Street, qui était pas beaucoup mieux. Hein, c'est un quartier très communautaire, on va dire. Mais donc, ils assument pas le côté crapoteux de Channel 4. Et ce qui est marrant, c'est que Channel 4, c'est une chaîne publique, hein, en Angleterre. C'est une chaîne à moitié privée, à moitié publique, en fait. C'est pas tout à fait la BBC, mais l'actionnariat est public. Donc, voilà.
Et c'est effectivement assez étrange. On a deux réactions sur Twitter vis-à-vis de ce qui s'est dit un petit peu récemment dans l'émission. Chibi Player qui dit Move, ça existe encore, OMG. Hashtag TVNR. Et puis Christophe Joblin qui dit pourquoi pas faire la rue des branleurs, où on suivrait les boîtes de prod qui payaient à rien faire.
Ou alors dans les magasins de bricolage, peut-être.
Ou alors encore des problèmes avec le modem si tu continues comme ça. C'est inquiétant.
Je crois pas que ce soit les auditeurs, personnellement.
Bon. Très bien. Écoutez, on va se faire une très courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de la rentrée des chaînes info. À tout de suite dans tes vénères.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, cachez vos enfants, ils arrivent.
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.
Nous sommes de retour dans TVDR, on va parler des chaînes info, de la rentrée des chaînes info et une sacrée rentrée malgré tout puisqu'une nouvelle chaîne info est née. Il s'agit de France Info, ce n'est pas le France Info de papa, ce n'est pas le France Info de Radio France, ou en tout cas pas complètement puisqu'il s'agit d'un effort commun entre France Télévisions, Radio France, l'INA et France 24 qui contribuent chacun de manière un petit peu différente au projet. Alors j'ai envie de vous dire, puisque ça s'est lancé le 1er septembre, que nous sommes le 4 septembre au soir, que donnent les premières heures de la chaîne publique? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Qu'est-ce que vous en appréciez? Qu'est-ce que vous en appréciez moins? Allez-y, on va peut-être commencer. Je sais que Stan est super fan de l'audio, de l'image sur cette chaîne-là.
Alors, ça a fait scandale d'ailleurs parce qu'ils ont payé ça 500 000 euros, mais moi j'ai envie de dire 500 000 euros, il n'y a pas de problème si c'est pour un truc aussi bien, quoi. Vraiment, ils ont un effort, ça rend bien, quoi. On a quand même la chance
mais
de
dans
voir.
HD.
Alors pas en HD tout à fait, et notamment sur, alors ils sont pas en HD sur la TNT parce qu'ils ont pas suffisamment de fréquence pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour le mettre en HD, et c'est en vieux 720p mal désentrelacé sur YouTube. C'est immonde, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais sinon c'est vraiment beau, en tout cas si on fait abstraction de ça, c'est vraiment très très beau. C'est l'agence Mouvement, qui est la successeur des télécréateurs, qui avait déjà fait des très belles créations justement d'audio, d'habillage audiovisuel, pardon. Et puis également au niveau du son de Jean-Michel Jarre, qui a fait ça tout ça en un mois quand même, un son qui est quand même assez extraordinaire. Il a pris notamment, il a eu quand même cette tâche de créer un habillage audio pour une chaîne qui avait au niveau de sa radio changé son habillage il y a à peine 2 ans et qui avait déjà eu un peu de mal à être pris en compte par les auditeurs. Et j'ai l'impression que globalement ça se passe bien.
Oui, et puis qui était mise en place, on rappelle, dès lundi pour France Info,
oui,
la radio.
Oui, tout à fait. En certains moments. Et puis la rentrée, là tu le disais, l'ouverture de cette antenne qui s'est déroulée un jour avant, enfin un jour et 2 heures avant, sur Internet, vu qu'ils ont commencé plus tôt la diffusion. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on voit ça d'une chaîne qui commence avant sur un autre média. Et voilà, donc vraiment quelque chose de très très beau à voir et à remarquer. Si ce n'est les glitchs quand même qu'on a eu pendant bien 24 heures, parce que quand même,
le plus beau truc que j'ai vu, c'était quelque chose comme 22 heures et j'ai vu littéralement la caméra tomber. La caméra était était sur un truc qui pouvait la faire monter et descendre, et en fait la caméra est tombée vers le bas, elle a fait plonk plonk.
Ah oui.
C'était assez étrange, et elle est vite remontée, mais disons, je sais pas ce qui s'est passé au niveau du peut-être du gyroscope ou qui était inclus avec l'appareil, mais
donc France Info joue au gyroscope, intéressant.
C'est ça, c'est exactement ça. Juste rapidement deux choses. Première chose, et qui est une chose amusante, dans le générique du journal qui vient donc à la demi et à l'heure pile, jouer au grand jeu, parce qu'en fait c'est un tas, il y a plein de tags, il y a plein de mots dans le générique du journal de l'édition qui a lieu toutes ces demi-heures. Cherchez, vous pouvez trouver article 49.3 au moins 3 fois de suite dans ce générique. Donc c'est très très drôle de chez vous sur un grand écran d'essayer de repérer où
si
se
vous
trouve
l'article. Le soir, trouvez le 49.3.
Vous amusez avec vos enfants, voilà. Trouvez le 49.3.
Faites pause.
Puis, donc pour rappeler un petit peu les rôles des différentes maisons à l'intérieur, on a Radio France qui contribue certaines de ses émissions. Donc on l'a dit, les informés de France Info, Classico, qui sont deux émissions de France Info, mais aussi Questions politiques de France Inter le dimanche. On a également l'INA qui fournit des espèces de petites pastilles, notamment une pastille sur les lancements à la télévision avec Antenne 2, la troisième chaîne, etc. On a aussi France 24 qui s'occupe tout simplement de la tranche minuit 6h. Donc en gros, quand France Info dort, c'est France 24 qui prend le relais. Voilà, donc et puis France Télévisions est nourrit également le reste de l'antenne, et c'est principalement son projet, ça reste principalement son projet, avec France TV Info qui était une déclinaison web de France Télévisions, qui fournit également une bonne partie du contenu du site internet, alimenter le fil d'info sur lequel d'ailleurs on aime beaucoup revenir chez France Info. On montre un mur avec un écran et on dit regardez, il y a des commentaires, regardez, vous nous aimez beaucoup, merci beaucoup.
Ah mais d'ailleurs c'est très compliqué cette histoire du web, parce que donc certes il y a les gens de France TV Info, mais tu as aussi les gens du web de France Info tout court, qui bossent ensemble, et ça a été en fait un véritable c'était très compliqué en fait, la division de qui va faire quoi. Et donc de ce que j'ai compris, l'envoi de push des alertes sur smartphone, c'est France TV Info qui s'en occupe. Par contre, le fil Twitter news de France Info, c'est France Info Radio qui s'en occupe. Enfin, c'était une véritable bataille entre les deux services web pour savoir qui fait quoi, qui prend le dessus, qui garde l'URL, qui envoie les alertes, qui gère les alertes. Enfin, ça a été, c'était vraiment, c'est le Yalta quoi, de chez son service public. Ouais. très compliqué.
Pour pas perdre son positionnement dans les moteurs de recherche. D'ailleurs, il garde pour l'instant l'URL France TV Info. Ça va peut-être amené à changer dans les mois à venir.
Ouais,
pour l'instant,
pas sûr.
C'est ça. Olivier, je t'ai vu sur le groupe Facebook privé de TVNR, là où on organise, on discute de l'émission. Je t'ai vu assez critique et j'ai envie que tu relèves un petit peu ces critiques là, parce qu'il y avait quand même plein de points intéressants dans ce que tu soulevais.
Oui, alors je suis peut-être de parti pris, puisque
la concurrence. Je
ne bosse pas forcément dans cette chaîne. Alors déjà, oui, effectivement, c'est pas en HD, c'est un peu déplaisant, mais ça, c'est un problème technique. Hein. Ils ont trop de chaînes, France Télé. Il faudrait qu'ils choisissent, soit ils viraient Franceau, ce qui n'est pas très possible, soit donc Franceau et maintenant France Info sont en SD pour faire la place aux deux. Autre souci, j'ai trouvé qu'au lancement sur internet, c'était assez brouillon. Bon, après, c'est vraiment un lancement et c'était juste pour avoir un avant-goût. Je veux dire, la présentation était un peu empruntée, y compris La Forge, qui pourtant doit savoir faire, puisqu'il fait le soir 3, me semble-t-il. Et alors, le plateau, indéniablement, il a de la gueule. Ça, on peut pas le nier. Le décor est bien. La Steadicam, tout ça, dans la rédac, c'est bien. Les sujets, des gros problèmes de mixage, je trouve. Le son est assez pourri. faut le lire. Enfin,
il y a ces sujets sans son également, hein,
oui, qui sont oui, alors ça, c'est un parti pris, ça se défend, c'est inégal, on va dire, mais c'est une idée. En tout cas, on peut pas leur enlever l'innovation par rapport à plein d'autres chaînes.
Tu très inspiré de ce que font Vox.com, donc site internet d'information aux États-Unis, et Edgeplus, qui est une déclinaison,
qui est le truc dont ils vous parleront jamais, mais c'est leur inspiration absolue. Ils en parlent depuis des mois. C'est le truc qu'ils voulaient décliner, et en gros, ils essayent de le faire. Pour l'instant, c'est pas au niveau d'Edgeplus, honnêtement.
Edgeplus, on rappelle, c'est Al Jazeera. Hein.
Ouais, et vous trouvez beaucoup de contenu sur Internet, comme sur Facebook. Il y en a plein de gens qui les postent souvent parce que c'est bien fait. Vous n'êtes pas obligé de voir le son et ça vous donne des infos. C'est bien monté. Il y a des petits, des petites pastilles humoristiques des fois. Donc c'est plutôt bien fait. L'autre souci que pourrait avoir cette chaîne publique, c'est que il y a des rappels des titres. Alors, on n'en a pas parlé.
C'est assez le grand problème.
Ils sont un peu improbables.
C'est ça. C'est à E10, à E20, à E40 et à E50. On va à la maison de la radio et il y a quelqu'un qui parle devant un écran.
Oui, alors et des fois, l'écran marche pas. Hein, ouais, c'est arrivé.
Il marchait au début. Il marche maintenant.
Ou alors,
j'ai entendu hier qu'il marchait pas.
Oui, hein, encore aujourd'hui, j'en ai vu des fois, il marche pas. Mais
c'est
en fait, quand ils sont pas prêts, de ce que j'ai compris, donc il y a des éditeurs visuels qui font ce qu'il faut et donc appuient sur des boutons au bon moment. Et quand ils sont pas là, bah, ça marche pas. Du coup, c'est un peu ridicule.
Ouais, ils font semblant de taper sur la tablette en même temps pour faire genre, regardez, je suis en train de moi-même changer les news devant vous. Bah, alors que non.
Non, voilà. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas ou si c'est.
Non.
J'ai pas l'impression, non.
Non, clairement pas.
Un point important avant qu'on passe peut-être aux autres chaînes d'info et de leur rentrée, c'est quand même de dire que France Info n'a pas de pub et comme il n'y a pas de pub,
enfin, France Info Télé.
France Info Télé, exactement. Et comme France Info Télé n'a pas de pub, non seulement son site internet est très léger en pub, pour l'instant il n'y a que des encarts d'autopromotion pour les groupes publics de médias. Ça va probablement changer, mais pour l'instant, je veux dire, le seul encart qui est prévu, il est relativement discret, c'est une bannière à peu près au sommet du site et rien d'autre. Moi, je vois rien d'autre pour l'instant.
Oui, enfin, faut mettre un bémol là-dessus parce qu'il faut quand même pas oublier que le site actuel n'est pas du tout le site de France Info, en fait. Le site aujourd'hui est vraiment France TV Info où ils ont collé un gros sticker France Info dessus.
Oui, c'est exactement
Dès que tu regardes un peu même dans les idents, des fois, tu vois, oui, regardez, c'est vachement bien, il y a plein de trucs et tu te rends compte qu'ils te montrent des mock-ups du futur site et ça ressemble pas du tout à ça. Donc,
C'est à tel point d'ailleurs que les podcasts sont extrêmement mal gérés. Oui, aujourd'hui, par exemple.
Retrouver, bon courage.
La chronique de Carl Zero, elle est pas disponible en podcast. Ouais. 8h30 apathique est quand même être censé être un des grands nouveaux rendez-vous de France Info, c'est ni disponible sur leur site ni même sur iTunes, donc c'est assez catastrophique. Et puis comme l'a dit Stan, de toute façon, tenter de retrouver des programmes avec, pour l'instant, l'organisation du site, c'est assez casse-gueule. Bon, maintenant, l'application est plutôt pas mal faite, mais je voulais revenir. Donc,
il y a un truc qu'il faudrait voir aussi, c'est pour l'instant, je vois assez peu de duplex, assez peu de direct. Donc en ce moment l'actu est plutôt calme, tout va bien, mais en cas d'énorme breaking news, on va voir un peu ce que ça donne par rapport à la concurrence. Alors c'est peut-être pas leur objectif dans l'absolu, mais en même temps, s'il se passe un événement immense en France et qu'ils sont pas vraiment dessus, ça risque d'être un peu ridicule. Et d'autant plus que je sais qu'il y a des négociations extrêmement compliquées avec France Télé sur la fourniture des images, parce que le service public France 2, France 3 ont pas spécialement envie de partager leurs images avec France Info quand ils ont des documents un peu exceptionnel.
Ceci dit,
pas les grilles à l'antenne avant le 20h ou le 13h.
Ceci dit, vu ce qui s'était passé quand France 2 avait cassé l'antenne lors d'un récent attentat et qu'un journaliste de France 2 avait interviewé quelqu'un qui était littéralement aux côtés d'un cadavre.
Ouais, c'était à Nice.
C'était assez peu classe et je sais pas si c'est exactement ça qui colle avec l'esprit de cette nouvelle chaîne, pour être honnête. Donc je pense également que il y a un caractère un petit peu perplexe. Enfin, il y a un sentiment d'un peu de perplexité face aux journalistes de France 2 et France 3 qui, fort malheureusement, ont décidé de faire passer certains trucs, et pas qu'à cette occasion-là d'ailleurs, qui a un peu défrayé la chronique, qui avait un peu réveillé le CSA.
Mais parce que il est déjà arrivé, j'ai vu ça hier encore, il y avait des directs pour la canonisation, enfin des plateaux froids, comme on dit, donc enregistrés pour la canonisation de Mère Teresa, et au cœur de la nuit, passaient des plateaux, vous voyez, qui faisaient plein jour avec le correspondant de France 2 sur place.
Ah oui.
Ça fait un peu mauvais genre, dans le sens ils auraient pu au moins l'enregistrer de nuit, celui-là. Voilà, mais bon, bref.
Mais pour dire, sur
après, je pense que le reste de France 2 en Italie, France Info, pour l'instant c'est pas une priorité.
On peut aussi bien rigoler sur la tranche quand même minuit 6h du matin où il passe France 24 et on se rappelle pourquoi on regarde pas France 24, c'est assez rigolo. Je sais pas si vous avez essayé de regarder, c'est assez épique.
Alors, Paris
on passe
minuit,
on
alors,
passe
France 24 est la seule chaîne d'info où entre minuit et 6h il y a vraiment des gens. Enfin, oui. France 24, il y a tout le temps des gens.
Donc, oui, ça c'est vrai. Non, mais ça, je veux bien le croire. Mais il y a quand même ce côté, on essaie d'avoir de l'info premium assez léchée au niveau du visuel, etc. Quand même en journée avec France Info, qui est un peu neuf. Et ben, c'est triste, mais France 24, ça nous ramène des années en arrière, quoi. Tout fait vieux et donne pas envie, quoi. Et c'est assez dommage, surtout qu'en plus, c'est à peu près le seul moment où on a l'impression que France 24 intervient, parce qu'après le reste de la journée, j'essaie de regarder, j'ai pas vu beaucoup d'interventions de France 24 comme on peut l'avoir. Ouais, c'est assez.
Mais c'est rare.
Au même titre que Culture Box, quoi. Donc, autant vous dire que
c'est pas. Il y a clairement plus de sujets du groupe, du Ring RFO que de France, que France 24, pour être honnête. Et c'est vrai, hein, j'ai eu quelque chose comme trois sujets de suite à un certain point, dans la tranche de France
Après, sur le papier, ils ont les moyens et les techniques et humains à exploser la concurrence, hein.
Complètement. Mais je pense qu'ils sont surtout en période de rodage, là. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont quand même créé ce truc-là en 10 mois, je crois, en peut-être un
an. Oui, à peine.
Ils sont allés très vite. Je trouve que pour un truc qui a été créé aussi vite, bon, ils avaient les moyens, mais en même temps, c'est pas des moyens extrêmes quand on parle de 15 millions.
Et en plus, chapeauté par Michel Field, alors là.
Oui. C'est hardcore. Hein, non, mais globalement, avec aussi peu de moyens, et ils ont quand même réussi à pas trop se taper sur la gueule, si ce n'est pour le nom. Globalement, ils ont à peu près réussi à travailler ensemble. On a aujourd'hui un truc qui se regarde, que des gens trouvent vachement bien, que d'autres trouvent moins bien, je veux bien. Globalement, c'est quand même plutôt pas mal. De la part du service public, on pouvait s'attendre à plus un échec que ça. Globalement, ça s'est quand même pas trop mal déroulé. Moi, personnellement, j'en suis assez content. Juste un dernier truc aussi sur le nom, cette histoire de nom. En fait, pour ceux qui se posaient la question, parce que j'ai découvert ça par hasard, en fait, France Info a du coup loué, entre guillemets, le nom, enfin un accord avec France Télé pour que France Télé utilise le nom France Info. C'est assez rigolo comme petit.
Et on en parle de la tagline 2.1.
Ah, elle est géniale, elle est extraordinaire. Moi, je suis un grand fan, hein, perso.
Elle est cheesy, mais elle restera, je pense.
Non, mais non.
Elle est cheesy.
Non, c'est rigolo.
C'est vrai, comme disait Stan, enfin là pour le coup, je vais paraphraser mon confrère de Libération. Moi, j'ai envie de dire, mea culpa, hein, parce que je pensais vraiment beaucoup de mal de la chaîne France Info dans les mois qui précédaient, parce que j'ai aussi pas mal taffé dessus et des retours que j'avais en interne, je dis voilà, ça se présente quand même très mal, hein, parce que les gars, bah, notamment du côté du web, me disaient genre on est au courant de rien, on sait pas comment ça va se passer en cas de breaking news, qui prend l'antenne, qui fait quoi, France 2, France 3, France
Info. Ils installent des grands écrans, il y a des présentateurs qui rôdent à côté, on comprend pas ce qui se passe.
Et puis voilà, il y avait quand même très peu de temps, enfin je me suis dit oh là là, enfin on était beaucoup à penser que ça allait être un peu cheapo, ça. Que ça va être le naufrage, que ça va être très gênant, et en fait j'étais agréablement surprise quand ça s'est lancé. Je dis bah non seulement bah comme on a dit c'est super beau, j'aime beaucoup la présentation debout avec le caméraman qui bouge en même temps, enfin voilà c'est très dynamique, et les sujets bon ça c'est encore en cours de rodage, mais quand même au moins on évite les faits divers à la con et les sujets un peu aux F. Là il y a quand même toujours un peu de l'intéressant, quoi, se mettre sous la dent à n'importe quelle heure, enfin là j'ai mis un peu cet après-midi pour qu'est-ce qu'il y avait un dimanche après-midi, ou mis à part du côté des Républicains il se passait pas grand-chose. Bah oui, il y a quand même des choses intéressantes, puis ça boucle pas autant, je trouve que voilà.
À part la météo GIF.
Oui. La météo GIF, moi, je comprends pas.
Il y a eu Claire Chazal aussi, hein.
C'est clivant parce qu'il y a des gens qui aiment bien. En fait, j'ai trouvé des gens qui étaient fans de la météo GIF. Donc, je pense que c'est juste trop clivant pour cette chaîne.
C'est entre guillemets marrant, mais 15 fois de suite sur la tranche de soirée.
En fait, c'est la formule.
Ah ouais, ça arrive tout le temps. D'accord. Ok. Je pensais pas que c'était
parce que c'est quand c'est une présentatrice ou un présentateur qui te fait aujourd'hui la météo, il fera 20 à Amiens, 30 au pont du Gard. Ça va très bien. Si c'est à chaque fois les gifs avec les bruitages perturbants, alors ouais, même que l'ambition de la chaîne c'est de faire certains sujets sans voix off pour essayer de te détendre un petit peu et de faire une chaîne un peu moins stressante,
c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de voix off. S'il y a pas de voix off, c'est juste parce que c'est des contenus qui sont faits pour être immédiatement partagés sur les réseaux sociaux.
Ça
contribue à une chaîne d'infos en continu qui est plus moins accaparante, on va dire.
Mais justement, parce que vu qu'on en parle là, du coup aujourd'hui, même les jours précédents, j'ai laisser France Info un peu en fond à la maison, ce que je fais jamais avec les autres chaînes info, parce que bah au bout d'un moment juste j'en peux plus, parce que ça crie dans tous les sens, c'était des jingles très agressifs, et là par contre bah c'est tout doux, c'est gentil, enfin voilà, tu peux laisser en fond une bonne partie de la journée sans vraiment t'en rendre compte, parce que c'est pas voilà, c'est bien, ça détend, mais c'est comme écouter le service public, quoi. À la radio, c'est pareil.
Je trouve que c'est d'autant plus rigolo quand on y pense que France Info, historiquement, était le genre de chaîne qui était très difficile. Enfin, bon, il y a un certain moment, ils ont amélioré quand même, mais à un moment qui était juste difficile à écouter parce que juste effectivement, t'avais toujours des rappels, des titres, etc., extrêmement, extrêmement stressants. Et au fur et à mesure du temps, c'est quand même rigolo que France Info aujourd'hui soit la chaîne un peu plus douce, relax, premium que d'autres chaînes qu'on voit aujourd'hui. Voilà.
Dans ce cas-là, je vais
passer à la suite.
Je vais poser une rapide question, une dernière question au sujet de France Info. On parlait beaucoup, parce que c'est une chaîne du service public, et parce qu'on est à un an d'une échéance politique, qui sont donc à la fois l'élection présidentielle en mai et l'élection législative en juin. Est-ce que vous trouvez, de ce qu'on en a vu jusque-là, en tout cas, que cette chaîne est politiquement marquée, et si possible marquée dans le sens du gouvernement? Parce que c'est quand même la crainte qui a émergé.
Pour l'instant, pas remarqué. Après, c'est ce que un peu il se murmure, mais de ce que j'en ai vu, ça ne m'avait pas l'air marqué spécialement. Bon, bref, on verra à l'usage.
Bon, on verra, ouais. Mais là, première semaine, non. Après, bon, tu sens que c'est une chaîne qui est plutôt calibrée pour les urbains. Enfin, voilà, c'est calibré pour un certain public. Mais après, voilà, au niveau politique, même si on sait que, voilà, c'est quand même aussi, ça a été une demande qui a un contre-pouvoir, notamment à BFM. Mm. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas senti vraiment du pro-hollandisme, hollandisme à fond les ballons sur la chaîne depuis son lancement. Après, voilà, on verra dans les mois à venir, notamment qu'on sera au cœur de la campagne, comment ça va se dérouler par rapport au soutien au Parti Socialiste.
Oui, surtout quand tu reçois Emmanuel Macron sur la grande émission politique du dimanche. C'est pas le truc le plus gouvernemental-friendly.
Je mettrais juste un petit bémol de quand même dommage. Enfin, je sais pas, le truc qui m'a le plus saoulé comme de France Info, c'est ils ont quand même ressorti Apathy du placard, qui avait été viré de quatre trucs différents avant, qui avait bougé au fur et à mesure. Et l'un des premiers invités, Gilbert Collard, franchement, est-ce que c'était nécessaire en début de saison? Bon, je m'attendais peut-être. Je sais qu'ils voulaient pas, qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient un peu indépendants et pas dans l'hollandisme, mais quand même à ce stade-là, ça part quand même vachement loin, je trouve.
Voilà, très bien. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, on va avancer un petit peu. iTélé devient CNews demain et même dans quelques heures, hein, probablement. Instabilité à la tête, accusation d'absence de stratégie à l'orée de la présidentielle, fuite de signatures reconnues. C'est une catastrophe annoncée en mode hier Canal+ et aujourd'hui CNews. Comment ça se passe? Comment vous voyez le truc venir au sujet d'iTélé?
Mal. Ouais. Je pense que si cette année il y a une chaîne qui doit boire la tasse, ce sera eux, a priori. Hein. Enfin, c'est vraiment très très mal barré. Effectivement, même la dernière news, c'est Guillaume Zeller qui s'en va, qui est quand même le boss. Et pour l'instant, ma connaissance, il n'a pas été remplacé. Donc voilà.
Non, il n'a pas été remplacé.
En sachant que c'était un stagiaire de luxe, hein, un petit peu. Hein, mais bon.
Oui, il faisait pas grand-chose. Hein. C'était le truc qui ressortait, genre il est pas méchant.
Pas méchant, mais quasiment absent. Hein, c'est ce qu'on m'a dit.
C'est ce qu'on m'a dit aussi. Non, franchement, moi, iTélé CNews, je serais franchement pas surpris si dans quelques mois on nous dit voilà qu'elle est mise en vente.
Mmh. Ah oui, ce serait surtout que Xavier Niel avait déjà fait part de son intérêt pour la chaîne.
Ouais, Niel, Pigas et tout, ils sont très intéressés, donc ça m'étonnerait pas que ça se termine comme ça.
Ce qui est quand même dommage, c'est de le faire juste après le renommage. Enfin, c'est un peu bizarre de renommer et de faire.
Il a pas
rompu
News.
Bouquet. Oui, voilà.
On n'est pas à une bizarrerie près dans Pierre Bolloré, ceci dit.
Ah non,
Mais alors là, vraiment, parce qu'il s'est à moitié barré de Canal+, il a quand même. C'est un champ de ruines, il part, il n'y a plus rien. Enfin, iTélé, en tout cas. Ils ont viré 50 personnes cet été. Bon, ils en ont embauché d'autres
40,
par ailleurs.
40 finalement.
Ouais, c'est 40. Enfin bon, bref,
c'est un peu. Bon, ouais, voilà, ça fait beaucoup.
ils en ont repris par ailleurs parce qu'il en fallait quand même. Mais bon, c'est niveau. La hiérarchie est complètement explosée. Il y a des compétences. Donc je pense que la chaîne peut tourner. C'est un peu ce qu'elle faisait, elle tournait en roue libre. Mais c'est une année qui s'annonce compliquée.
Oui, et puis le côté un petit peu, vous ferez du public rédactionnel si on vous demande d'en faire.
Ça, je crois, ils en sont revenus.
Ouais, c'est ça, ils en sont revenus. Hein. Ils ont vu comment ça a réagi. Ils ont laissé tomber. Mais de toute façon, ouais, iTélé, ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils étaient en autonomie totale. Enfin, parce qu'ils n'avaient plus de chef. On ne s'occupait plus d'eux. Donc les mecs, ils ont tenu la barre comme ils pouvaient. Et puis bah en fait les audiences s'en sont plutôt bien portées, donc finalement
c'est comme le gouvernement belge en fait.
Voilà, ça devient une coopération ouvrière.
Ça va. Mais les gars sont assez désespérés parce que de toute façon le problème d'iTélé ça a toujours été qu'ils n'ont pas assez d'argent par rapport à BFM et du coup ça se ressent, ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont toujours à la mise à part sur quelques informations, notamment sur Charlie Hebdo, c'était les premiers, mais sinon sur plein d'autres
grâce
trucs.
Grâce à des amitiés avec une boîte de prod qui était à côté de Charlie. Hein, mais...
Voilà. Voilà, mais bon, c'était quand même les.
Oui,
les
ils étaient
tout le monde était sur iTélé ce jour-là, enfin, un truc qui n'était pas arrivé depuis des années. Et mais sinon, ils ont toujours été un peu à la traîne, voire même beaucoup à la traîne. Et là, bon, bah là, l'année qui s'annonce, déjà là, ils n'ont pas encore tout à fait lancé leur grille de rentrée. Là, ils sont en mode, non, de toute façon, la vraie rentrée, ce sera fin octobre avec le débat pour les Républicains. Pour la primaire des Républicains, enfin voilà, on sait, il y a pas de chef.
My bad, gros erratum, c'est Jonathan MM qui me fait remarquer. Il a tout à fait raison. Qu'iTélé sera nommé CNews le 24 octobre et que c'est en fait uniquement des 8 et des 17 qui deviendront C8.
Oui, c'est ça.
Le 5 septembre.
Il me semblait bien qu'il y avait ça le fin octobre. Oui, voilà.
On respire.
Ils attendent le temps d'être achetés du coup.
C'est ce qu'il dit, c'est genre la vraie rentrée de iTélé, ce sera le 24 octobre.
Mais c'est n'importe quoi, enfin.
Oui. T'es là, genre, bah c'est un peu tard.
Mais c'était des 8 qui nous avaient fait ça il y a quelques années où ils avaient dit oui, en fait la rentrée on la fera
courant octobre, tranquille.
Novembre, on verra.
En venant du ski en janvier, ouais.
C'est ça, c'était épique.
Morandini, mon Dieu.
Non, il n'est pas là. Non,
j'allais dire.
Il n'est plus là.
Gros lapsus, je ne vais pas dire Morandini, je voulais dire.
Ferrari, peut-être.
Non, pas du tout, je vous.
Bruce Toussaint.
C'est terrible, non plus. Parce qu'il trust l'antenne en plus.
Je
voulais dire Cyril Hanouna, voilà. Voilà, ma vanne elle tombe complètement à plat à cause. C'est terrible, il faut se souvenir de tellement de noms de personnes, c'est terrifiant. Faire une émission média.
Sur Canal Plus, il y a plus grand monde quand même.
Oui, ça va vite.
Tu vois, quand tu parles de jeux vidéo, c'est quoi? C'est Nintendo, Sony, Microsoft et c'est terminé. Tu vois,
Les médias, il y a plus de monde. Hein.
C'est Bouygues, Bolloré ou non finalement?
C'est vrai.
On passe à BFM TV. Pour vous, est-ce que la comparaison avec Fox News tient uniquement sur le champ esthétique? Parce que sur le champ esthétique, c'est difficilement discutable, avec notamment le cube.
Bon, je pense que c'est une inspiration.
Il y avait clairement aussi
une campagne de pub à une époque, ouais.
Voilà, qui était complètement tirée de ça. Le slogan première chaîne d'info de, qui est quand même plus ou moins reprise. Et bon, après circonstanciellement, parce que Fox News est également la première chaîne d'info dans son pays. Mais est-ce qu'il y a selon vous, une tentative comme Fox News de s'adresser peut-être à un public un peu plus conservateur, un petit peu plus de droite.
Mais on en peut-être dans le ton à la limite, mais au niveau de la construction de la grille de ces interviews de magazines, on est quand même loin. On est loin de gros rendez-vous d'opinion sur BFM TV.
Il manque clairement Sean Hannity, quoi.
En fait, il faudrait faire venir, par exemple, du groupe SFR Media. Il faudrait faire venir de RMC Brunet, par exemple. Et lui, ce genre.
C'est un peu segmentant.
Mais alors, je suis d'accord. Mais ceci dit, pour être totalement dans le délire de Hannity ou de mon Dieu O'Reilly ou d'autres dans ce genre-là,
ou Glenn Beck à l'époque,
du côté des Américains, notamment sur Fox News, ça collerait totalement à ce style-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore émerger dans les chaînes info de manière générale, d'ailleurs, en France, pour être très honnête. Vous voyez ça arriver un jour? C'est pour vous un futur un peu crédible, que ce soit pour BFM ou pour d'autres?
Ça se voit déjà en radio, en matinale, donc pourquoi pas faire ça en télé? Maintenant, le problème, c'est le format. C'est essayer de faire tenir ça en... Parce que aux États-Unis, c'est quasiment une demi-heure à une heure. Ils tiennent une émission avec des débats comme ça pendant une demi-heure, une heure. Je ne sais pas si ce format tiendrait en France sur autant de temps. Là, on n'est plus sur des chroniques de 3 à 5 minutes où les journalistes donnent leur avis, mais on est loin quand même de faire appel comme ça des grosses émissions d'opinion.
Bah, il y a les informés un peu, hein, vite fait, qui fait un peu...
C'est plus un panel show.
Ouais, c'est vrai, pardon.
C'est
ouais,
plus.
Il y a quand même du débat et de l'opinion qui se balade, mais c'est plus, ouais, comme là-dessus. Mais sinon, on sait que on a pas l'impression de voir ça très souvent, même en télé, mais quel que soit en info ou pas. Enfin, vous me corrigerez, parce que vous connaissez peut-être un petit peu mieux que moi, mais j'ai pas l'impression qu'on ait en France vraiment d'émissions juste en général, que ce soit sur
non, on a
info
pas
ou
ça
pas, où on parle vraiment de son opinion directement.
Ouais, et puis les trucs de Fox News, c'est limite des fois, ça vire au pugilat. Enfin, par duplex interposé, mais ils se pourrissent. Je pense qu'en France, on n'est pas encore tout à fait à ce point-là, quoi.
Encore une fois, dans le style, je l'ai vu encore aujourd'hui avec l'émission politique avec Montebourg et de Malherbe, il y avait un moment où le plan switchait avec une division en trois, centrée sur trois protagonistes différents. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement
ça, c'est très Fox News, ouais.
Des chaînes info américaines, et notamment de Fox News, qui adore ce genre de découpage de l'écran. Donc, il y a quelque chose dans le style, en tout cas, qui est clairement, clairement inspiré. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la rentrée de BFM, ou sinon on passe à LCI?
Il y a une rentrée.
Des trucs à dire sur
BFM, c'est assez calme, hein, il faut le dire.
Ouais,
c'est le changement dans la continuité, comme on dit.
Il y a juste, et on y reviendra après, un nouveau canapé, mais au-delà de ça, un canapé gris, un canapé premier prix, paraît-il, chez Ikea, m'a-t-on glissé sur Twitter il y a quelques jours. Mais
ça, c'est votre vie, Inx, c'est votre vie.
C'est votre vie.
Après, est-ce que les gens ont vraiment conscience d'une grille de BFM? C'est aussi la question, quoi. C'est, j'ai l'impression quand même que la plupart des gens juste zappent sur BFM.
Oui, c'est
quand même. Il y a quand même la matinale, la matinale qui est très regardée.
C'est quand même
la deuxième audience de France le matin, je crois, quasiment derrière Télématin.
C'est vrai. Mais sinon, après se dire, ah, je vais regarder ce soir parce qu'il y a, bon, il n'y a pas Ondelat, mais tu vois, genre, il y a quelqu'un qui.
Il y avait une époque,
je suis pas fou.
Je crois que le soir, Boursier aussi est un peu suivi. Parce que les gens aiment bien. Mais il y a un peu de long, il y a des reportages un peu plus longs à ce moment-là, donc voilà.
Rappelez-vous du générique de Ondelat chez BFM où littéralement il marchait entre des immeubles tel Godzilla.
C'était assez. Il a fait une saison, hein.
Oui, comme sur beaucoup d'autres chaînes. Donc du bureau 23.
On verra pour Europe.
On parle notamment de LCI que valent les nouvelles têtes, que valent les nouveaux rendez-vous. Alors j'aimerais surtout qu'on se concentre sur François-Xavier Ménage, Yves Calvi et Olivier Mazerolle. François-Xavier Ménage, c'est la matinale. Et alors la matinale, c'est assez fascinant parce que c'est le côté très « je suis à mon bureau, puis soudain j'ai un invité ou un chroniqueur sur le canapé, donc je vais parler en même temps, je lance pas de coupure pub, je parle en même temps que je marche jusqu'au canapé et à la table, et on parle, et voilà, et je m'assois avec vous. Bonsoir, Micheline Rendu, vous êtes agronome, et aujourd'hui vous nous parlez de comment bien manger. » C'est assez spécial de voir ce genre de transition. On s'attendrait à ce qu'il lance un jingle ou de la pub, mais non, c'est un peu gênant pour l'instant. Ce sera probablement changé, mais c'est
très, ça doit être réglé, je pense.
Ça fait très M6, oui.
Mais c'est bien M6, hein.
C'est pas là, étonnant vu François-Xavier Ménage, mais c'est très cosy comme matinale.
Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est quand même sur le mercato des chaînes info, c'est LCI qui a cannibalisé cet été, parce que FX Ménage, c'est une très jolie prise. Yves Calvi, bon machin. Olivier Mazerolle, on en discute. Ils ont récupéré un nouveau directeur de la rédaction qui est quand même pas n'importe qui s'appelle Thierry Tulier, qui a fait déjà iTélé auparavant et qui a été le chef de l'info.
Et
qui a été le chef de France Télé de toute l'info. Et c'est honnêtement un très grand professionnel, avec un petit caractère aussi, mais je pense être une excellente prise pour eux. En tout cas, ils remettent un peu. Cette dame qui est en train de mourir relève la tête. Je pense que cette année, ça pourrait être la belle surprise. Après, il faut voir si les gens suivent sur cette formule entre le news et le magazine, quoi.
Un mot quand même sur Yves Calvi, il fait la même chose que sur France 5.
Ah, totalement.
Avec une différence, c'est l'interview à la fin. Juste pour rajouter quelque chose par rapport à ça, sa phrase d'introduction, ils feront « vos questions SMS, blablabla, à la fin de l'émission ». C'est la même, il a repompé sa phrase.
Mais ça marchait, à l'époque.
C'est terrifiant.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hier l'émission Célèbdo sur France 5, et ils ont fait justement une petite pastille là-dessus, sur Yves Calvi, sur LCI. Et donc, ils ont fait le montage de toutes les phrases en fait, qu'ils disaient déjà dans C'est dans l'air. Et ils disaient, ça vous rappelle pas quelque chose.
En fait, GE2 a revendu sa soundboard à LCI et il l'a filé à Calvi. Ils ont pas enregistré.
La seule différence, c'est qu'ils diffusent sur Facebook maintenant, en plus.
J'ai pas vu.
Ils mettent l'émission en Facebook.
Ils ont arrêté
Live en même
TV,
temps, pendant 40 minutes, je pense, et 40 dernières minutes, le débat. Et donc, du coup, ils interagissent comme ça via Facebook direct.
Donc, avec les gens qui commentent. Les mêmes experts croutonneux que sur France 5, mais sur Facebook, là.
Voilà.
C'est cool.
Mais est-ce que Yves Calvi a emmené avec lui tous ces intervenants habituels de C'est dans l'air?
On est encore assez pour m'en rendre compte.
Ouais.
À mon avis, pas Barbier, parce que Barbier, il a vraiment maintenant l'air d'être
enfermé
chez BFM.
Ça c'est clair.
Mais j'en ai vu beaucoup d'autres que j'avais déjà vu ailleurs, effectivement, des économistes ou des hommes politiques, des patrons, pas des patrons de presse, mais des rédacteurs en chef, qui reviennent clairement dans son nouveau magazine. Donc, c'est quoi? C'est 24 heures en question, c'est ça?
Oui, 24 heures en question, avec Yves Calvi en dessous.
Avec Yves Calvi, bien sûr. Génial. Dernier point, de cette rentrée des chaînes info. Au-delà de la nouvelle mission d'LCI, toutes les chaînes semblent vouloir faire à la fois du tout info et un petit peu plus, par exemple, de l'accueil le matin avec ces fameux canapés façon Good Morning America.
Des canapés.
Est-ce que pour vous, c'est une volonté de renier des parts d'audience aux chaînes traditionnelles en général, ou plus particulièrement de narguer l'ogre Télématin, qui, je le rappelle, fait jusqu'à 33% dans certaines démographies le matin.
Et qui n'a pas de canapé.
Je pense que c'est plus un gimmick, franchement. Il fallait faire un nouveau truc cette année, voilà, les canapés. Ça se trouve, l'année prochaine, il n'y en aura plus, hein, si ça marche pas. Voilà.
Ouais. D'accord. Mais en tout cas, à cause de ça, grâce à ça, maintenant, je mets qu'il y ait des canapés au Figaro. Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de canapé au Figaro.
Mais il n'y a pas de canapé dans la rédaction. Alors, moi, je suis sûre, moi, j'aurais pitché ça. On met un canapé au service média. En plus, là, on est près d'une verrière. Au service média, j'ai dit, on serait bien, on réfléchirait à nos sujets, on serait beaucoup plus détendu. Ce serait vachement bien. Et tout le monde viendrait dans notre service.
Pourquoi pas des hamacs? Moi, je trouve bien.
Mais je pense qu'on serait bien. Non, moi, je dis, il faut plus de canapés. C'est très bien.
Ceci dit, le jour où on voit nos présentateurs de différentes chaînes d'infos dans des hamacs, j'avoue, j'y vais tout de suite. La première chaîne qui fait ça, je m'y lance sans problème.
Et puis, on va terminer sur une dernière réaction sur TVNR. Christophe Joblin qui nous dit, faire du clivant pour une chaîne info, c'est prendre le risque de s'aliéner une partie du public, donc d'audience et de revenus publicitaires. Et c'est clair, je m'ajoute à ce qu'il dit, que quand tu fais 1, 2, 3% d'audience, t'as pas forcément envie de couper ça. Là où des chaînes info américaines peuvent faire un peu plus, donc
oui, ça fait un peu plus de monde, hein, politiquement, les conservateurs, les démocrates là-bas,
c'est plus simple d'être deux camps, donc c'est...
oui,
c'est
puis ça pratique. Fait quelques millions de plus quand même.
Exactement, donc ça rapporte vite un petit peu plus, tout à fait. Très bien, eh ben écoutez, on va refermer ce chapitre de la rentrée des chaînes info. On reparlera probablement de ces chaînes-là et notamment de France Info, qui est un petit gros sujet à suivre, hein, de cette rentrée. Il y aura du sang, il y aura des larmes dans le domaine des chaînes info. On verra bien ce qui va se passer. Restez à l'écoute de TVNR. Dans un instant, ça va être nos recommandations, mais d'abord un petit encart auto-promotionnel de Radio Kawa. Vous allez voir, il est merveilleux. A tout de suite.
La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapar sur Radio Kawa.
Nous sommes de retour dans le dernier petit instant de TVNR, c'est la rubrique à consommer sans modération. Ce sont des recommandations en télé, en radio, sur Internet, tant que c'est audiovisuel, on vous le conseille. Et Olivier, tu nous invites à regarder quelque chose sur Netflix.
Oui, tout à fait. Alors, c'est disponible depuis le 1er juillet, ça s'appelle Freedom. C'est le dernier spectacle d'un comique australien qui s'appelle Jim Jefferies. Alors... il fait carrière aux États-Unis à l'heure actuelle. Ça a été enregistré à Boston, non, à Nashville, je crois. Il est connu pour deux choses principalement. Ce comique, cet humoriste, on va dire comique, c'est un peu nul, sur un sketch sur les armes à feu de son précédent spectacle qui s'appelait Bear, qui a été extrêmement partagé à l'époque. Lui-même avoue que cet extrait sur YouTube a dû être vu 5 fois plus que l'ensemble de sa carrière. Son autre titre de gloire, c'est en 2007. C'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai pas découvert en 2007, mais à cause de cette vidéo, à Manchester en Angleterre, il s'était fait frapper par un spectateur sur scène pour une vanne un peu trop touchy, visiblement, en tout cas, qui avait pas apprécié. Il fait un sketch et un mec monte et lui met un énorme coup de poing. Et il a bien encaissé. Il en a même fait un sketch derrière où il repasse la vidéo pour expliquer que il se défendait en mettant sa tête face au poing du mec. C'est assez marrant. Alors c'est justement un comique assez offensant, comme on dit, offensive. Il respecte pas grand chose. Alors il déclenche pas mal la haine. On va dire que dans le style, c'est un peu Louis C.K. en moins dépressif. Et on est un peu plus beauf, il faut le dire. Dans ce spectacle, le dernier Freedom, par exemple, il commence en partant sur le viol et en parlant de Bill Cosby. Donc c'est quand même assez touchy.
Oui,
mais c'est plutôt assez marrant. Et il y a un de ses précédents spectacles qui s'appelait Alcool Holocaust. Donc pas très classe non plus.
Donc
c'est vraiment... mais c'est extrêmement drôle. Hein. Il est très bon et sa grande qualité, c'est qu'il raconte souvent des anecdotes, des histoires vraies ou plus ou moins romancées qui lui sont arrivées. Il y a un de ses vieux spectacles où il expliquait que quand il était à Amsterdam pour faire des spectacles, il avait décidé, pour pouvoir se masturber en toute tranquillité, d'acheter des œufs vibrants qu'on achète en sex shop et qui s'étaient introduits dans une partie de son anatomie que je ne nommerai pas, et que il avait malheureusement cassé le cordon qui permettait de récupérer l'œuf et qu'il restait 3 jours avec ça et qu'il a hésité pendant 3 jours à aller aux urgences pour expliquer ce qu'il avait. Il explique tous les stratagèmes pour le sortir. Enfin, c'est assez graphique, comme on dit. Alors c'est sur Netflix, c'est très drôle, c'est moins politique, enfin en gros les gens qui l'ont découvert avec le sketch sur les armes à feu pensent que c'est une sorte de d'humoriste politique très engagé. En fait, c'est moins ça, il a on va dire deux trois marottes, la religion, les croyances politiques un peu arbitraires, mais sinon c'est plus de l'humour du quotidien, assez cruel, parfois un peu à la frontière de du mauvais goût, il faut le dire, mais c'est extrêmement drôle. Vous pouvez trouver aussi pas mal de ses vidéos sur YouTube sans traduction. Alors c'est un peu plus compliqué parce que comme il est australien, il y a un accent à couper au couteau. donc attention à l'accent, mais je vous conseille, c'est extrêmement drôle.
Très bien, Jim Jeffries de Freedom de Jim Jeffries dans cet ordre-là sur Netflix.
Et il parle un peu de Donald Trump et il parle un peu des attentats du Bataclan.
D'accord. Ah oui, ça a été c'est effectivement assez
récent. C'est tout récent, ça a été enregistré en mai, je crois.
D'accord. Chloé.
Oui. Oui. Eh ben, je vais également vous parler d'un programme sur Netflix. Oh. Eh oui, une fois de plus, hein. Parce que bah, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai deux grandes passions dans la vie, les voyages et la nourriture. Et donc, une troisième également, ce sont les animaux.
Et manger donc, des animaux, peut-être.
Aussi. Et donc, sur Netflix, il y a une série documentaire qui est très très bien pour ceux qui aiment la cuisine, qui s'appelle Chef's Table. Et eh bien, nous avons la saison 3 qui vient d'arriver depuis hier samedi, Chef's Table France. Car oui, c'était un scandale. Les deux premières saisons de cette série documentaire, donc qui se concentre sur des grands chefs à travers le monde, ne s'étaient jamais arrêtées chez nous, alors que nous sommes la plus grande nation de la gastronomie, quand même. Et donc là, il y a une saison 3 qui est consacrée uniquement à nous, et visiblement, il y aura encore une suite, parce que là, il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis. Et j'en ai regardé 3 hier d'affilée. Voilà, j'ai binge-watché salement cette série. Alors, j'avais pas trop accroché aux Chef's Table originaux parce que, alors, il y a un côté qui peut gêner. C'est, en fait, c'est très américain. Dans le sens, ça en fait un peu des caisses. C'est très, voilà, on va sortir les violons et une symphonie pour un mec qui t'explique que les légumes, c'est super. C'est et puis avec des gros. D'ailleurs, il y a un plan superbe dans. Dans cette saison 3, tu vois un des chefs étoilés qui est en train de marcher son potager avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Voilà, c'est le côté un peu too much de Chef's Table, mais le truc cool, c'est que ça donne super envie de manger. Et ça met vraiment bien en valeur déjà le travail des cuisiniers, leur passion. Comment ils sont arrivés là, il y en a qui ont plus ou moins galéré selon les portraits, il y en a pour qui c'était très dur, il y en a pour qui ils y sont arrivés quand même assez vite. Et puis bah voilà, tu as toujours un passage dans ces épisodes où ils te montrent plusieurs plats donc avec une superbe musique et tu vois les trucs, t'es là genre je veux tout manger. Ça a l'air bon. Après, tu te renseignes sur les prix, tu pleures un petit peu. Mais parce que notamment bah le premier épisode, c'est sur Alain Passard. Qui a 3 étoiles, donc je viens de regarder tout à l'heure, pour dîner chez lui le soir, c'est 380 euros. Donc voilà, c'est pas donné.
Il faut compter 100 euros par étoile, plus ou moins.
C'est ça, ouais. Donc c'est... Bah oui, parce qu'il y a aussi Adeline Grattard du Yamcha, qui elle a 1 étoile, et elle, c'est plutôt entre 70 et 100 euros le menu. Donc voilà, c'est déjà du haut de gamme, mais plus accessible que 380. Et aussi, alors, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que certes, on parle de la cuisine française, mais on va pas sur les, voilà, un peu les trucs habituels, les grands chefs français qu'on connaît absolument partout.
Les kebabs.
Voilà, c'est. On va sur des chefs qui sont un peu moins connus, un peu moins médiatisés, et qui, je pense, vont avoir leur carnet de réservations qui vont exploser suite à ça. Le seul, franchement, le seul défaut, mais qui est juste ignoble, c'est le mixage sonore. Je sais pas, je pense que c'était pas un francophone qui était au montage. Parce que quand vous écoutez, donc, tous les chefs parlent en français, évidemment, et c'est juste très mal monté. Et on voit qu'ils ont coupé plein de phrases, qu'ils les ont montées, qu'ils ont accéléré des trucs pour que ça passe au montage, et c'est juste vos oreilles saignent. Donc c'est vraiment dommage et je sais pas ce qui s'est passé à la réalisation. Est-ce que c'était des anglophones qui ont supervisé ça ?
Ils connaissent pas la langue, c'est tout.
Connaissent pas la langue. Enfin c'est bizarre. Pourquoi s'il y avait pas un francophone qui écoutait pour voir si tout était ok ? Parce que là c'est vraiment. Enfin là je regardais hier sur Netflix, je me suis dit c'était que moi. Et je regarde sur Twitter, il y avait plein de gens qui se plaignaient quoi. Ils disaient genre mais c'est incompréhensible, ça fait mal aux oreilles, il y a des coupes, des sautes. Enfin si vous écoutez, vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Il y a eu aucun travail sur le mixage. Donc c'est voilà, c'est le seul truc dommage. Mais sinon c'est 4 épisodes, 45 minutes. ça donne faim. Et si vous aimez la cuisine, que vous appréciez, voilà, vous faire des bons restaurants et que vous avez envie de rêver comme vous rêvez devant Top Chef, et ben voilà, je vous conseille fortement cette série documentaire sur Netflix.
Merci beaucoup Chloé. En deux mots, le podcast 538 Elections, c'est ma recommandation pour cette semaine dans TVNR. Ça vient donc, eh bien, sans aucune surprise, du site 538.com, qui est le site internet dirigé par Nate Silver, qui aime beaucoup s'intéresser à la politique américaine, et plus particulièrement aux sondages et aux probabilités de victoire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur 538.com, il y a de magnifiques graphiques avec des données mises à jour chaque jour, selon les différents sondages des différents États et les sondages au niveau national, qui sont pesés, qui sont pondérés en fonction de leur fiabilité pour donner les chances de tel et tel candidat de remporter tel ou tel État et de remporter de manière générale l'élection présidentielle. Et dans ce podcast 538 Elections qui a lieu toutes les semaines, eh bien, il décrypte un petit peu l'actualité politique du moment, l'effet sur la course à la présidence et les bons et les mauvais usages de la pratique du sondage dans les médias. C'est très très intéressant à écouter si vous vous intéressez à la politique américaine. Attention, si vous ne parlez pas, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez avoir un très gros problème parce qu'évidemment, ce sont des Américains, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de doublage, mais si le sujet vous intéresse et si vous parlez la langue, je suis certain que ça fera un très bon ajout dans votre application de podcast. On se rend sur YouTube, mais pour regarder quelque chose qui passe sur la chaîne câblée TBS aux États-Unis, Greg.
Oui, je vous parle donc encore d'une émission anglophone qui s'appelle Full Frontal with Samantha Bee. Donc Samantha Bee, qui a une émission hebdomadaire sur TBS qui revient sur l'actualité. Donc dans
l'ancienne du Daily Show.
L'ancienne du Daily Show, présentée à l'époque par Jon Stewart, elle a été correspondante pendant 12 ans, donc c'est dans la veine de John Oliver et de Stephen Colbert, donc c'est-à-dire qu'elle réagit sur l'actualité, elle fait des sketchs autour de cela, mais aussi des reportages. C'est une spécialiste de l'indignation qui est toujours piquante, qui sait crier quand il faut face aux sujets qui fâchent, sur l'immigration, les droits des LGBT, les droits des femmes, sur les religions, donc... Pour le moment, avec les élections, elle s'en donne à cœur joie. Donc, c'est un peu comme John Oliver, dont les vidéos sont partagées par milliers, sauf qu'elle est encore plus incisive. Elle utilise encore plus de fuck et autres insultes à ses esquisses. C'est vraiment une femme qui sait parfaitement caricaturer les comportements de certaines personnes pour justement les mettre devant leurs bêtises. C'est juste magistral à regarder et à écouter. Donc les meilleures capsules sont sur YouTube. Vous tapez Samantha Bee B2E et vous aurez directement toutes ces vidéos. La plupart du temps, elles sont en plus sous-titrées en anglais, donc pour vous aider. Franchement, c'est une émission que je conseille à tout le monde.
Et puis, ça vient tout juste de revenir, il y a eu deux épisodes tout récents, Stan nous recommande quelque chose qui passe sur une chaîne assez particulière, True TV.
Oui, alors True TV, d'ailleurs, je me suis renseigné, hein, True TV, moi je pense, j'étais persuadé que c'était l'équivalent du France 5 aux États-Unis, en fait pas du tout, initialement c'était genre plutôt le numéro 23 des États-Unis, enfin c'était Court TV initialement, hein, ça diffusait des trucs sur les crimes, etc. Je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir avec ça, c'est Adam Ruins Everything, avec mon accent anglais formidable, donc Adam Ruins Tout, donc qui est une émission qui est présentée par Adam Conover, qui a été une des personnes qui avait entre autres fait connaître College Humour avec ces différents formats qui mêlaient à la fois fact-checking et côté humour, être très accessible. Et donc Adam Ruins Everything, donc Adam Conover, parle d'un thème en particulier au sein d'une sorte de petite, donc c'est des petits épisodes de 20 minutes, d'une petite situation où il suit quelqu'un et il ruine au fur et à mesure toutes les misconceptions, les fausses idées qu'on les préjugés, merci, qu'on a sur le monde qui nous entoure, notamment toutes les choses qu'on pense fausses,
sur le mariage notamment, alors, avec le diamant sur la bague.
Tout à fait, les diamants qui sont en fait qu'une grosse opération marketing. Là, encore récemment, il en a fait un sur le football et il t'explique que non, vous n'avez pas besoin de vous hydrater toutes les 5 minutes, juste buvez quand vous avez des soifs, c'est déjà pas mal. Et plein de choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est sourcé. Il y a toujours une petite source qui apparaît en haut à droite pour vous dire, au fait, vous pouvez retrouver la source dans la page. Il y a à chaque fois, il y a une page qui est dédiée avec toutes les sources de tout ce qui se passe durant l'épisode. C'est vraiment, vraiment sympa à regarder. On apprend plein de choses. Alors, bon, nous, on est un public. Je pense qu'encore pour les publics américains, ça doit être encore plus, waouh. Bon, il y a des choses qu'on connaît quand même en France, globalement. Mais oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai particulièrement aimé l'épisode de la saison dernière qui était consacré à la sécurité où on vous montre par A plus B que voilà, on est plus sur le théâtre de sécurité que dans la sécurité réelle. Mais voilà, donc là, ça a repris depuis maintenant 2 semaines. Il y a 2 épisodes qui sont sortis. Et on peut le retrouver donc à des grosses capsules entières, des extraits entiers qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de Collège Humour et de True TV. Et puis sinon, vous demandez à votre cousin qui est aux États-Unis de vous l'envoyer. C'est pas voilà. mal. Adam's Revenge Thing.
Et ce qui est encore plus chouette, tu disais que c'était sourcé. Ils prévoient de faire, ils savent pas exactement quand parce qu'ils ont besoin d'un petit peu de matériel pour ça, mm-hmm. mais ils prévoient de faire Adam Ruins Everything, en fait, en critiquant les quelques erreurs qu'ils ont pu commettre au gré des épisodes. Donc
c'est une très, très bonne idée. Hein,
parce très que chouette initiative.
Il a également un podcast, pour anecdote, où il discute pendant 1 heure avec les gens qu'il invite dans l'émission. C'est très, très sympa.
Sur le podcast Network Maximum Fun. Merci beaucoup Stan pour cette recommandation. Vos recommandations seront disponibles sur la page de l'épisode sur radiokawa.com. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté en direct. Merci à Chloé, Greg, Olivier et Stan d'avoir été les chroniqueurs de ce 60e épisode de TVNR. On se retrouve dans pile 2 semaines, dans 2 dimanches donc. Et d'ici là, n'hésitez pas à donner 5 étoiles et un commentaire à TVNR sur iTunes, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à donner à notre Patreon, au Patreon Radio Kawa, patreon.com/radiokawa, où vous pouvez nous aider à en faire encore plus, encore mieux, notamment des émissions en public, mais aussi de l'achat de matériel audio. Bref, voilà, on se retrouve dans 2 semaines. On vous souhaite une excellente nuit et une bonne semaine. À très vite. Ciao, bonne nuit.
Ciao.
Salut. Ciao.